Vôtre.
Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons les quatre pires menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'humanité. En tout cas, selon l'avis d'un citoyen qui se sent concerné et à qui nous avons souhaité donner la parole. Un avis pour le moins controversé par un autre citoyen, néanmoins ami de longue date du premier. Nous sommes à Nancy avec deux ci-devant également retraités pour un débat de citoyens.
Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr.
Yves Lubragnecki et Philippe Dag, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Yves Lubragnecki, ça fait un moment déjà que l'on se connaît et il y a longtemps déjà que vous me parlez d'une démarche qui vous est tout à fait personnelle. Sur des préoccupations fortes. Et vous avez écrit un texte qui s'appelle « Les quatre pires menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'humanité ». D'après vous, ce sont l'effet de serre, le nucléaire, l'envahissement de la planète par le plastique et l'envahissement de la planète par les engrais et les pesticides. Oui. Il m'avait semblé utile parce que, alors, évidemment, vous n'avez pas de statut particulier, si ce n'est celui d'être retraité, mais on verra que vous avez beaucoup travaillé la question. Mais ça n'empêche pas que vous ayez une parole de citoyen. En plus, c'est la période, voilà, donner la parole aux citoyens.
Oui, après tout, c'est bien.
C'est légitime. Et pour cette rencontre, vous m'avez proposé d'inviter Philippe Dag, qui est votre
avec plaisir,
votre ami et votre contradicteur systématique qu'on entendra bien sûr tout au cours de cette émission. On va commencer par la première menace que vous évoquez. Ce sont bien sûr les émissions de gaz carbonique, de CO2, qui provoquent ce fameux effet de serre que l'on connaît.
Oui. Avec une conséquence, d'ailleurs c'est un des sujets sur lesquels on s'accroche avec Philippe, je pense qu'il va être amené à en parler, l'effet de serre engendre un dérèglement climatique que moi j'appelle le bouleversement climatique et qui génère ce qu'on constate malheureusement de plus en plus souvent et avec des niveaux de gravité qui malheureusement ont l'air aussi d'évoluer en gravité, c'est les accidents météorologiques. Hein, on a vu ce qui s'est passé dans le midi de la France, on a vu les incendies en Californie, au Portugal, en Italie, en Grèce, partout. Il y a en Australie des périodes de sécheresse, des tempêtes, des inondations. Et la France actuellement, elle est dans une période de sécheresse qui est importante et qui inquiète les agriculteurs. Et tout ça est lié et vous remarquerez, je pense qu'il et on ne peut pas le nier, qu'il y a une accélération du phénomène depuis quelques années et ça prend vraiment des proportions. Et il se trouve que moi j'ai été amené en tant que citoyen, je n'avais de mission de personne, à m'intéresser à cette question parce que un beau jour j'ai découvert le moteur Elsbeth, qui est un moteur diesel parfaitement polycarburant. Ludwig Elsbeth, c'est un ingénieur allemand qui est motoriste, et il a inventé un moteur qui fonctionnait indifféremment avec tous les carburants issus du pétrole et avec toutes les huiles végétales existantes dans le monde, le tout pur ou en mélange. Voilà. Par exemple, vous avez une voiture comme ça, vous avez le réservoir qui est à moitié qui est vide, vous le remplissez à moitié avec toutes les pompes d'une station-service, vous mélangez, et puis le reste de la moitié du réservoir, vous mettez 5 ou 10 huiles végétales différentes. Quand je dis huile végétale, c'est l'huile que vous mettez dans votre salade.
Pour autant, ce moteur, Yves Lubragnecki, on n'en parle jamais. On ne parle jamais de cette
judicieuse remarque.
Expérience.
Judicieusement remarque, Monsieur Mutchler. Effectivement, quand j'ai commencé à réfléchir à ça, il se trouve que j'avais fait une mission bénévole en Afrique de l'Ouest, en Guinée, et j'avais pris connaissance d'un article qui était paru dans la revue Science et Vie de juin 1989.
Elle vous a marqué, celle-là.
Ça m'a beaucoup marqué. Et c'était juste au moment où je partais en Guinée, et là, j'ai vu, c'était la première fois que j'allais en Guinée, j'avais une expérience africaine, mais pas en Afrique de l'Ouest ni en Guinée, et j'ai vu Mais ça m'a vraiment interrogé tout ce qu'on pourrait faire en termes de développement avec un moteur diesel qui fonctionnerait avec de l'huile végétale produite dans le village. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pétrole à acheter. Et à l'époque, on ne parlait pas, enfin, en tout cas, moi, je n'avais pas entendu parler du réchauffement climatique et des émissions de CO2 fossiles. Et petit à petit, donc, j'ai pris conscience de l'intérêt de la chose. Et bon, je vous passe les détails parce qu'il y en a pour 3 heures. Mais je me suis aperçu après, très rapidement, en quelques mois, que finalement, on avait ce problème d'accumulation du CO2 dans l'atmosphère terrestre. Et que si on utilisait un combustible d'origine végétale, eh bien, on passait en cycle court du carbone. Et c'est-à-dire que le carbone que vous émettez, ce n'est pas du carbone fossile que vous avez été chercher, qui est dans la Terre depuis 300 millions d'années, qui est stocké, voilà, qui est fossilisé dans la Terre. C'est du carbone qui a été fixé par la plante l'année d'avant et qui va être fixé par la plante l'année d'après. Il n'y a plus d'augmentation du taux de gaz.
C'est du carbone qui est déjà dans le cycle.
On appelle ça le cycle court. Et donc, du coup, ça faisait 2 avantages qui étaient très importants. Et donc, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose à développer. Alors, j'ai rédigé des documents que j'ai fait lire, bon, un peu comme ça, mais j'ai fait une note qui doit faire peut-être 40 pages, ou je ne sais plus, 45 pages sur le sujet, que j'ai distribué à droite à gauche, et qu'en fait, pratiquement personne n'a lu, quoi. Voilà, et donc j'ai tiré la manche des politiques, je travaillais dans le milieu politique à l'époque, et je n'ai été écouté par personne, voilà.
Et comment vous expliquez ce désintérêt pour
ce type de moteur ? Je ne sais pas, c'est possible que ce soit ma méthode qui ne soit pas la bonne, ça je ne peux pas juger, j'en sais rien. Mais en tout cas, le résultat est là, c'est que l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère est devenue plus que significative, elle est devenue envahissante.
Alors pendant que vous parlez, Yves Lubrunicki, Philippe Dague levait les yeux au ciel et prenait des notes.
Ça ne m'étonne pas.
J'aimerais qu'on entende votre réaction, Philippe Dague.
Voilà, je suis géologue, comme je le disais tout à l'heure, et je compte en millions d'années. Ça veut dire que je crois qu'il faut tenir compte des cycles, il faut tenir compte du passé, il faut tenir compte de l'histoire présente, proche, ou l'histoire réelle de la Terre. Alors il y a déjà une chose qui m'inquiète dans le titre ou dans ce premier exposé, c'est le terme de menace. C'est vrai qu'on parle des menaces, c'est vrai qu'il y a des menaces, mais il y a peut-être aussi des avantages. Alors, dans ces menaces, vous parlez d'abord de l'effet de serre. Alors, l'effet de serre, oui, la Terre se réchauffe. Là, je ne suis pas sceptique pour dessous. Par contre, je reste très sceptique sur les causes de ce réchauffement.
Il faut quand même préciser que pendant que parle Philippe Dague, c'est Yves Lubrunicki qui fait des grands bonds. Et voilà. Donc, mais je précise quand même que vous êtes de bons amis tous les deux. Mais
simplement, collègue et néanmoins ami.
Mais absolument pas d'accord sur cette question-là. On continue à vous écouter,
bon,
Philippe Dague.
Donc sur l'effet de serre, ce n'est pas parce que 2 courbes sont parallèles qu'elles sont forcément corrélées. Et jusqu'à présent, j'attends, et je crois qu'un certain nombre de scientifiques attendent, que l'on fasse une corrélation entre l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère et le réchauffement.
Vous êtes un climato-sceptique, Philippe Dague ?
Oui, enfin, je ne suis pas du tout sceptique sur le réchauffement, mais je dis qu'il y a réchauffement climatique. Je dis que la teneur de l'atmosphère en gaz carbonique augmente, mais que l'un et l'autre soient liés, ou en tout cas que l'augmentation de la teneur en CO2 de l'air soit la seule cause de réchauffement, sûrement pas.
Bon, donc ça, en fait, c'est le raisonnement que tient Donald Trump, président des États-Unis.
Je ne sais pas si... Enfin, c'est pas, il n'y a pas que lui.
Non, il y a vous aussi.
Il y a moi et il y a beaucoup de gens. Je crois que ce serait un raisonnement trop simpliste et j'attends qu'on me démontre que c'est le gaz carbonique qui présente...
Mais en attendant, est-ce qu'on ne ferait pas bien de prendre des précautions, justement, en se disant... on sait que l'émission de gaz à effet de serre a encore augmenté cette année de façon exponentielle en pleine COP 24. Oui. Actuellement en Pologne, c'est la période où le GIEC, le groupe des scientifiques sur le climat, en a profité pour publier son rapport. Est-ce qu'on ne devrait pas, en attendant des études que vous évoquez, prendre des précautions ?
On peut toujours essayer, mais est-ce que ça servira à quelque chose ? Il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, il y a un volcan qui a explosé, qui s'appelle le Pinatubo, qui a rejeté quelques kilomètres de poussière dans l'atmosphère, de soufre et autres produits. Et pendant les 2 années qui ont suivi, la température du globe a diminué de 0,4 degrés. Imaginons qu'il y ait eu une dizaine de volcans dans les 10 dernières années qui aient fait ça, de combien aurait diminué la température du globe ? C'est bien plus important que nos rejets de gaz carbonique. Voilà un exemple. L'autre exemple que je peux donner, c'est l'histoire du petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire était précédé d'une période qu'on appelait l'optimum climatique. Bon, là, à cette époque-là, il y avait de la vigne en Angleterre, tout se passait bien. Puis tout d'un coup, vers entre 1250 et 1300, pouf, ça s'est refroidi. Mais refroidi dans des proportions très importantes. Et malgré tout, alors à quoi c'est dû ? C'était dû aussi, là, peut-être, mais ce n'est pas parce que ça s'est passé en même temps, c'était dû à un volcan. Un volcan, alors c'était en Indonésie ou du côté de Sumatra, on ne sait pas trop. Enfin, mais il y a eu, pendant cette période, 5 ou 6 volcans qui ont explosé de suite. Et là, ma foi, est-ce que ce n'est pas ça le petit âge glaciaire ? Autrement dit, ceux qui disent que la température va continuer à se réchauffer, personne n'en sait rien.
Durablement vôtre, Eric Mutchler.
Nous ne vivrons plus de nos souffrances. Refleurira notre chemin. Quand le goût de vivre aura du sens, nous envisagerons demain. Nous ferons fi de toutes nos peurs et nous chanterons comme des gamins quand nous entreverrons le bonheur au bout de ce tunnel incertain.
Nous sommes toujours chez Yves Lubranieki pour ce débat citoyen entre vous, Yves, qui est juriste à la retraite, et Philippe Dag, votre ami de longue date, mais contradicteur, qui lui est géologue à la retraite. Débat citoyen, je le disais, Sur les quatre menaces que vous pensez être les plus dramatiques aujourd'hui pour l'humanité, les Braniki, on a bien évoqué les émissions de CO2, les gaz à effet de serre, on va évoquer le nucléaire, l'envahissement de la planète par le plastique, quatrième pire des menaces, l'envahissement de la planète par les engrais et les pesticides. Un mot quand même sur le propos de Philippe Dagg, sur ce qu'il vient de dire, parce que là aussi, vous-même étiez en train de lever les yeux au ciel.
Oui, effectivement, je bouillais, hein, puisqu'il parlait de volcan, alors ça me faisait bouillir.
Et puis ça, c'est l'effet de serre, oui.
C'est l'effet de serre aussi, oui, c'est vrai. En fait, quand Philippe vient nous parler de volcan, il faut quand même prendre les chiffres. Alors effectivement, quand on évoque le petit âge glaciaire, déjà, il faut bien comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas les émissions artificielles de CO2 fossiles que nous avons aujourd'hui. Donc la situation était complètement différente, c'est-à-dire que les émissions provoquées par les éruptions volcaniques n'avaient pas du tout les mêmes conséquences ni les mêmes effets que s'il y avait de telles émissions aujourd'hui, alors que nous avons de grandes émissions de CO2 anthropiques. Fossiles. Je vais donner le chiffre parce qu'il est quand même parlant, ce chiffre-là. Voilà, à titre de comparaison, hein, pour donner une idée de ces chiffres, j'avais demandé, quand j'ai commencé à réfléchir ce dont je parlais tout à l'heure, là, sur l'utilisation de l'huile végétale, les émissions de CO2, etc., je prenais un peu connaissance de la problématique. J'ai demandé à un directeur de recherche du CNRS quels étaient les volumes ou les quantités de CO2 qui étaient émises par les volcans. Hein, on parlait de ça justement à l'instant. Eh bien, ce directeur de recherche du CNRS, donc c'est quand même pas un train de savate, il m'a dit les rejets de CO2 par les volcans au cours d'une année se situent entre 275 et 415 millions de tonnes. D'accord ? Entre 275 et 415 millions de tonnes. Alors là, maintenant, accrochez-vous, je vais vous donner les chiffres, la progression des chiffres d'émissions de CO2. C'est des chiffres officiels américains. On ne peut pas soupçonner les Américains de les minimiser ou de les maximiser. Je pense que ce sont des chiffres officiels du département américain de l'énergie, et c'est un organisme qui s'appelle le Centre d'information et d'analyse du gaz carbonique. CDIAC, ça s'appelle, vous pouvez chercher sur Internet, CDIAC. Alors, ce centre-là, il a sorti des statistiques annuelles, voilà, sur les émissions anthropiques, et on était... Écoutez bien, à moins de 6 milliards de tonnes en 1950 d'émissions anthropiques de CO2 fossiles, moins de 15 milliards de tonnes en 1970, hein, 6 milliards, 15 milliards, 22 milliards de tonnes en 1989, 24,4 milliards de tonnes en 2000, plus de 29 milliards de tonnes en 2005 et plus de 36 milliards de tonnes en 2014. C'est les derniers chiffres qu'ils ont publiés. Voilà.
Et là, Philippe Dagg fait la moue.
Oui, mais tant pis pour lui.
Évidemment, on pourrait continuer encore très longtemps ce débat. J'aimerais qu'on aborde, Yves...
Oui, mais c'est quand même d'une importance capitale.
On a bien compris la différence phénoménale de rapport entre les émissions de gaz à effet de serre anthropiques provenant de l'activité humaine et les émissions naturelles, notamment par les volcans. Mais j'aimerais qu'on aborde...
On ne peut pas dire que les émissions volcaniques actuelles puissent être comparées à celles du passé, même du passé récent.
Ça, c'est l'intervention
ça,
de
ça n'a rien à voir. Hein.
Alors, on va... c'est un débat citoyen, voilà. Oui. Heureusement que ces gens-là se respectent.
Non, mais je l'attends à la sortie.
On peut débattre en toute amitié. J'aimerais quand même qu'on aborde le deuxième sujet, Yves Lubranier, qui, selon vous, est une des quatre menaces qui pèsent sur l'humanité, sur les quatre que l'on vient d'évoquer. La deuxième, c'est le nucléaire.
Oui, on n'a pas fini non plus, là. Et donc, oui, c'est quand même très, très très frustrant parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à dire sur les émissions de gaz à effet de serre. On est quand même passé...
Vous parlez d'émissions de gaz à effet de serre. L'émission Durablement Vôtre ne fait hélas qu'un temps donné.
D'accord, d'accord. Mais alors, on est quand même passé de 280 cm3 par mètre cube de CO2 en 1850, le début de la révolution industrielle, à 400 cm3 par mètre cube de CO2 aujourd'hui. Et donc,
ça, c'est la première chose. On l'a bien compris. La deuxième menace, Yves Le Maliki, le nucléaire.
Bon, alors, le nucléaire, le problème du nucléaire, ce dont je parlais dans ma note, et on va voir ce que notre ami Philippe va en dire, mais c'est que nous sommes actuellement, je parle surtout du nucléaire français, parce que le nucléaire français est quand même... La France est le premier pays au monde à être électrifié par le nucléaire.
Hein, en quoi c'est une menace pour vous?
Alors, c'est une menace parce que nous ne savons pas arrêter, démanteler les centrales nucléaires qui arrivent en fin de vie. On est complètement bloqué avec l'EPR parce qu'on n'arrive plus à avancer. Vous voyez bien l'EPR de Flamanville, je crois qu'on a triplé les délais, on a triplé le budget et on n'en voit pas le bout. D'accord. Et on s'est aperçu récemment qu'il y a des troubles dans la cuve en inox, qui est donc l'élément cœur central de la centrale de Flamanville, et que vraisemblablement, on attend les résultats concrets de la SN, vraisemblablement, on ne pourra jamais utiliser la centrale de Flamanville, sauf à la reconstituer à zéro, qu'à 60% de sa capacité, parce que sinon, on va la faire péter.
Voilà. Et puis, il y a la question des déchets.
Et on ne sait pas traiter les déchets. Voilà. Alors, quand on vient nous dire, mais le nucléaire, c'est...
On vient nous dire, ça pourrait être Philippe Dag, on est d'accord.
Oui, oui, oui. Quand les ignorants viennent nous dire que...
Philippe Dag appréciera.
les ignorants viennent nous dire qu'on produit de l'électricité sans émission de CO2, c'est complètement faux. Parce qu'il faut raisonner en termes d'ACV, c'est-à-dire d'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire d'un bout à l'autre. Or, d'un bout à l'autre, il faut tenir compte des quantités gigantesques de CO2 qui ont été émises pour faire le béton qui a été nécessaire à la construction, pour faire les aciers, notamment de l'acier inox, pour faire la construction des centrales. Tous les travaux, les engins qu'on a fait marcher pendant des mois, des années, etc., pour faire ces centrales, ça, on n'en parle pas.
L'acheminement de l'uranium.
L'acheminement de l'uranium, ce n'est pas des quantités énormes, mais c'est surtout la construction de la centrale. C'est gigantesque, ça, par contre. Il faut tenir compte des quantités gigantesques d'émissions de CO2 que vont générer le stockage des déchets à Bure. Il y a 300 km, écoutez bien, 300 km de galeries à 500 mètres de profondeur. Vous imaginez les émissions de CO2 que ça représente pour faire des travaux pareils. Hein, ça, il faut en tenir compte. On ne tient pas compte des émissions de CO2 pour le démantèlement des centrales qu'on ne sait pas faire. Et tout ça, on n'a pas les moyens financiers de faire.
Mais Philippe Dag va vous expliquer, parce qu'il piave oui. De vous répondre, va vous expliquer
mort.
Que tout ça, Yves Le Maliki, c'est de l'élucubration. On vous écoute,
Bien sûr.
Philippe Dag.
La situation actuelle du nucléaire. Dans les années 70, on a lancé un programme qui a mis en place, je ne sais plus combien, 48 ou 58 réacteurs nucléaires qui marchent, qui sont sûrs et qui n'ont posé en France aucun problème. Après Fukushima, on a mis en place, on a commencé à mettre en place une série de mesures qui font que la sûreté de ces réacteurs sera encore augmentée.
Mais pourquoi augmenter la sûreté Philippe Dag, de centrales nucléaires, alors qu'elles sont vendues comme étant absolument sûres. Elles sont sûres.
Bon, vous dites absolument. Moi, j'ai toujours demandé à mes élèves de jamais mettre d'adverbe dans ce qu'ils disent.
Donc,
elles sont sûres, mais absolument, sûrement pas.
Donc, vous admettez qu'il y a un risque.
Mais comme toujours. Et vous prenez votre voiture demain, il y a des risques. Il y a toujours des risques.
Des risques, peut-être, mais les conséquences ne seraient pas les mêmes. Si on imagine la centrale nucléaire de Fessenheim partir en fumée comme ça a été le cas à Fukushima, on imagine les dégâts.
Où on va les relativiser, parce que combien il y a eu de morts ? Il y a eu de morts pour l'exploitation du charbon par rapport au nombre de morts qu'il y a dans l'industrie nucléaire, c'est pas la même chose. Bon, 300 km de galeries à Bure, ça n'a rien à voir avec les milliers de kilomètres de galeries qu'il y a entre la Sarre et la Lorraine, dans le nord de la Lorraine. Bon. Donc ça, c'est un premier point de ce que je voulais dire sur le nucléaire. Sur l'avenir du nucléaire, le problème du nucléaire, c'est que dans les années 70, on a réuni toutes les compétences nécessaires pour faire des centrales sûres. Pas forcément absolument sûres, pour faire des centrales sûres. Ces gens-là ont travaillé. Comme vous l'avez dit, peut-être un peu trop, ça m'a pas plu qu'on était à la retraite, mais tous les gens qui ont fait ça donc sont à la retraite et c'est pas sûr qu'ils étaient remplacés. Donc on a un problème dans l'avenir du nucléaire en France, c'est de savoir si on sera capable de faire des vraies centrales nucléaires qui marchent, qui tiennent.
Donc,
et
finalement,
qui
elles sont pas si sûres que ça.
Qui seront sûres. Bon, on verra, je ne sais pas. Peut-être que les gens qui les construisent à l'heure actuelle ne seraient pas d'accord avec moi. Je dis qu'il y a un problème de formation. Je pense à l'école des mines de Nancy. Il n'y a pas de filière où on apprend à construire des centrales nucléaires. Pourtant, ça aurait pu être une bonne idée. Bon, dernier point sur les déchets. Bah, ma foi, les déchets, on va les enfouir sous terre à 400 mètres ou 600 mètres de profondeur. Enfin.
Un train s'appe déraillé et par accident, un tunnel peut s'effondrer. Par accident, un avion, ça peut tomber. Par accident, une fusée, ça peut foirer. Ça peut arriver. Oui, mais les centrales, c'est la technologie idéale, c'est la sécurité optimale, c'est l'infaillibilité totale. Puisqu'on te le dit, 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 puisqu'on te le dit. Toute la journée, c'est ce qu'on se tue à répéter à la radio, à la télé, dans les journaux, puisqu'on te le dit. Un câble, ça peut casser. C'est la technologie idéale, c'est la sécurité optimale, c'est l'infaillibilité totale. Puisqu'on te le dit, 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 puisqu'on te le dit. Toute la journée, c'est ce qu'on se tue à te répéter à la radio, à la télé, dans les journaux, puisqu'on te le dit. Un tunnel peut s'effondrer, une piste s'écrouler, un ingénieur mal calculé. Un pétrolier peut s'échouer, une plateforme polluée et goudronner un océan. Le Titanic a coulé, le Tupolev est tombé et le Zeppelin a brûlé. Oui, mais les centrales, c'est la technologie idéale, c'est la sécurité optimale, c'est l'infaillibilité totale. Puisqu'on te le dit, 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 puisqu'on te le dit. Toute la journée, c'est ce qu'on se tue à te répéter à la radio, à la télé, dans les journaux, puisqu'on te le dit.
Durablement vôtre, Eric Mutchler.
Oui, alors sur le. Je voudrais quand même réagir sur ce que vient de dire Philippe Dax, c'est-à-dire le stockage des déchets. C'est l'homme qui a été décidé que ça serait stable et qui a été creusé cette galerie de 300 km à 500 mètres de profondeur.
Et puis peut-être aussi le choix de Bure n'est pas uniquement, ne procède pas uniquement des qualités géologiques du sol, mais peut-être aussi de l'inertie sociétale en surface.
Politique.
On est toujours avec Yves Dubranier qui juriste, Philippe Dax, géologue. Tous deux en retraite. Je suis navré, Philippe, mais voilà, c'est comme ça.
Fier de l'être.
Je le précise. Voilà, sur un débat entre citoyens, ici chez Yves Lubranicki, près de Nancy. Il faut qu'on aille très vite. Alors, je sais bien que c'est un peu frustrant pour évoquer les quatre pires menaces qui pèsent, selon vous, Yves Lubrenecki, sur l'humanité. On a évoqué, pour vous, le réchauffement climatique, le nucléaire. Il vous reste encore un peu de temps pour évoquer deux autres menaces qui, selon vous, sont les plus importantes. C'est l'envahissement de la planète par les plastiques et l'envahissement de la planète par les engrais et les pesticides.
Oui, je voudrais juste parler des plastiques et des pesticides. Sur les plastiques, ce que j'observe, je ne connais pas fondamentalement le dossier, ce que j'observe, c'est qu'il vient de sortir dans la presse, alors que finalement, personne dans la société civile ou citoyenne dont vous parliez tout à l'heure, personne n'en avait jamais entendu parler. Alors, traitons du dossier, mais je ne sais pas le faire. Sur les pesticides et sur tous ces produits qu'on met dans la terre. Ce que je veux dire et ce que j'observe, et ça personne ne me contredira, c'est que le rendement agricole a augmenté dans les 10 ou 20 dernières années. On a sorti à peu près 20% de céréales de plus dans le monde. On peut dire aussi qu'un chêne, et ça c'est le CNRF à Champenou qui le dit, un chêne pousse en 80 ans alors qu'il n'était pas exploitable avant 120 ans il y a quelques années. Voilà, c'est simplement ce que je veux dire, c'est qu'on a parlé de menaces, mais il n'y a pas que des menaces, il y a aussi des aspects positifs.
Il faut toujours préciser que pendant que l'un parle, l'autre lève les yeux au ciel,
Yves Lubrenecki. C'est quand même difficile.
Je vous rappelle, Yves, que vous avez encore quelques minutes pour évoquer les dangers du plastique et les engrais et les pesticides. On ne va pas y arriver.
C'est vrai que c'est horriblement frustrant. Bon, d'accord. Alors, d'accord. Donc, effectivement, c'est important de parler de la menace des plastiques parce qu'il y a un élément dont on ne parle pas suffisamment, à mon avis, c'est que ce plastique, donc on commence maintenant à prendre conscience qu'il se rassemble dans les eaux et dans le... On parle du sixième continent, voire maintenant du septième et du huitième, et il y a des quantités gigantesques de plastique qui se trouvent dans les mers, et le principe veut que ce plastique il soit agité en permanence par le ressac et par la houle, et ça a produit comme effet que les morceaux frottent les uns sur les autres et le plastique se délite en très fines particules. Et ces très fines particules, elles entrent dans la chaîne alimentaire. On l'a constaté de plus en plus précisément. Or, il y a une grande partie de ce plastique qui n'est pas de compétence alimentaire. Et donc, ça veut dire qu'on a notamment beaucoup de perturbateurs endocriniens qui sont dans ces plastiques et qui rentrent dans la chaîne alimentaire. Et à cette heure-ci, on ne sait pas dire quels vont être les effets. Voilà. Et puis, le dernier point dont j'avais parlé, c'est vraiment difficile.
On sent bien votre frustration.
Oui, c'est vraiment difficile. Et donc, le dernier point dont j'avais parlé, c'était l'envahissement de la planète par les pesticides, les OGM et les engrais. Et effectivement, c'est quand même un problème. Alors, évidemment que les rendements agricoles ont considérablement augmenté avec l'utilisation de ces procédés dits modernes. Mais ce que Philippe ne nous dit pas, peut-être parce qu'il n'en a pas conscience vraiment, c'est que le fait d'utiliser ces procédés, ça détruit les sols. C'est-à-dire que quand vous faites de la monoculture, vous utilisez en particulier, par exemple, quand on peut faire de la monoculture pour faire du carburant. Bon. Eh bien, pendant des années, vous allez cultiver la même plante au même endroit. Donc, vous allez utiliser des engrais pour cette plante-là, pour cette terre-là. Et vous allez toujours utiliser le même engrais. Vous allez utiliser les mêmes pesticides au même endroit pendant des années et des années. Eh bien, vous allez donner un profil à la terre qui va finalement la détruire. C'est-à-dire que vous allez détruire toute la vie qui est à l'intérieur, les vers de terre, etc. Et ça va avoir des conséquences pour les générations futures extrêmement importantes. Voilà. Et je pense qu'il faudrait... Alors, je donne le nom des époux Bourguignon. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'agriculture.
C'est Claude et Lydia Bourguignon.
Voilà, ils ont travaillé sur cette question. Voilà, des agronomes. Ils ont travaillé sur cette question avec des effets effectivement importants, intéressants, sur le fait qu'il fallait revenir, par exemple, à la seulement triennale, changer, avoir des cultures variées et concomitantes pour que les plantes, les unes les autres, s'entraident. Parce que c'est quelque chose qu'on a passé complètement sous le tapis, alors que c'est très important dans ce domaine-là. Voilà. Et donc, mais en fait, moi j'ai parlé de ces quatre menaces, il y en a beaucoup d'autres, hein, des menaces. Hein,
bon. Ce sont les quatre menaces principales, dites-vous.
Non, c'est les quatre menaces qui sont reliées par un élément commun, c'est le cycle ultra-court du carbone. Un beau matin, je me suis réveillé en me disant, mais bon sang, le cycle ultra-court du carbone, c'est très simple dans le principe, c'est le fait... sur une centrale thermique, par exemple, vous allez filtrer les fumées à la sortie de la cheminée. Vous allez faire circuler ces fumées dans des tubes en verre qui contiennent de l'eau avec des micro-algues exposées à la lumière. Et par le procédé tout à fait naturel de la photosynthèse, les micro-algues vont absorber à peu près jusqu'à 50% du carbone qui a été émis.
Il y a déjà des procédés qui travaillent là-dessus.
Exactement. C'est quelque chose qui existe. Moi, je n'ai rien inventé. Hein. J'en serais bien incapable. C'est quelque chose qui existe déjà dans de nombreuses matières et dans de nombreuses manières, un peu partout dans le monde. Hein. Il y a des usines partout dans le monde qui travaillent là-dessus. Mais en France, en tout cas, moi, je ne m'occupe pas du reste, mais en France, il n'y a pas de coordination horizontale, et c'est ça qui fait défaut. Il y a des universités qui travaillent là-dessus, il y a des entreprises qui travaillent là-dessus, il y a des associations qui essayent de développer ça, et chacun travaille verticalement dans son domaine, alors que si on voulait développer cette technologie, on pourrait produire des quantités gigantesques de micro-algues avec lesquelles on peut combattre les quatre pires menaces à laquelle l'humanité a eu à faire face depuis qu'elle existe, à savoir les 700 tonnes nettes d'émissions de CO2 par seconde, parce qu'on pourrait passer en cycle court du carbone, c'est-à-dire que les microalgues, on va s'en servir pour faire des énergies renouvelables à la place du nucléaire, à la place de l'utilisation du pétrole ou du charbon. On va remplacer donc le nucléaire par ça. On peut faire du plastique en se servant comme matière première de ces micro-algues, qui ferait un plastique qui serait 100% biodégradable et naturel, et totalement biodégradable, alors qu'aujourd'hui, l'obstacle auquel on est confronté, c'est le prix, parce qu'on sait faire avec des céréales, avec du maïs, etc., mais ça coûte très cher. Ça n'a aucune comparaison avec le plastique de pétrole qu'on a aujourd'hui. Et ce plastique serait biodégradable. En quelques années, le plastique qui part dans la nature, il disparaît. Voilà, sans laisser de traces, au contraire, il nourrit les plantes, etc. C'est complètement différent. Et puis les engrais, il y a des entreprises, il y a une entreprise en France, je crois qu'elle est près de Bordeaux, qui produit de l'engrais à partir des micro-algues. C'est un premier pas, mais il risque d'y en avoir beaucoup d'autres. Et chacun de ces sujets-là, on a commencé à l'exploiter. Et il y a, hors antenne, on parlait tout à l'heure des terres rares et du lithium pour les batteries. Eh bien, il y a au Japon une entreprise qui fait des batteries avec du carbone végétal de coton. C'est merveilleux. Ça fait des batteries dont le temps de charge se compte en minutes et non plus en heures, et qui sont 100% biodégradables et recyclables. Or, le problème du coton, c'est qu'il faut de la terre et beaucoup d'eau. Et de l'eau, on en a de moins en moins. Voilà.
Colportent, crapotent le même air, survolent tranquille les centrales nucléaires.
60 millions de pigeons chargés en diesel et en plomb s'agitent, s'excitent, profitent du bon air, consomment en masse les miettes de la terre.
Je ne sais plus quoi chanter, maman. Sinon le même air de rien qui fait. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.
60 millions de moutons en route vers la même direction. Papote, chipote, radote le même air, piétine tranquille, le siècle des lumières.
60 millions de moutons marchant aux ordres sans condition frémissent, pâlissent, se glissent des pieds sous terre, ne bêlent plus sous le
jour de la colère. Je ne sais plus quoi chanter, maman, sinon le même air de rien qui fait. Na 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 na. Cochons avachis dans leur déjection se frottent, supportent et rôtent le même air, rompissent tranquille dans leur sous-cimetière. 60 millions de cochons aveuglés par leurs conditions frétillent, gaspillent, bousillent leur dernier air, mijotent ensemble dans l'immense soupière. Je ne sais plus quoi chanter, maman, sinon le même air de rien qui fait. Na 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 na.
Durablement vôtre, Eric Mutschler.
Yves Lubranicki, vous êtes aujourd'hui à la retraite. Qu'est-ce qui vous a amené à vous investir, à investiguer autant ces différents domaines que vous venez d'évoquer ?
Oui, c'est vrai qu'on peut se demander effectivement pourquoi un juriste il s'intéresse à ces questions qui sont quand même plutôt techniques ou voire scientifiques. En réalité, j'avais expliqué tout à l'heure que je me suis intéressé à ça parce que j'étais dans une structure qui militait pour le développement de la République de Guinée en Afrique de l'Ouest. Et quand j'ai découvert la possibilité d'utiliser l'huile végétale comme outil de développement, eh bien, ça m'a ouvert des tas d'horizons à titre individuel. J'ai même contacté Ludwig Elsbeth. Je l'ai vu trois fois quand même. Je suis même allé avec un enseignant.
Qui est l'inventeur de ces fameux moteurs.
Voilà, qui est l'inventeur de ce fameux moteur, malheureusement qui est décédé en 2003, je crois. Et je suis même allé voir avec un enseignant de l'école des mines, on est allé le voir en Allemagne, et j'ai pu utiliser des voitures qui fonctionnaient avec de l'huile végétale, et c'était quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que il y avait un rendement qui était supérieur.
Et vous n'avez jamais eu envie, Yves Lubranicki, de vous investir davantage encore, vous avez le temps maintenant au sein d'associations.
Ah ben maintenant, oui, mais le problème, c'est que moi, je suis tout petit et surtout que personne ne m'écoute. Et donc, c'est une chance assez exceptionnelle. J'en suis pas sûr, mais je croyais que c'est la première fois que je parle à la radio de ces sujets-là. J'ai jamais été amené à le faire. Alors, donc, par exemple, la note que j'ai rédigée sur les quatre pires menaces et le cycle ultra-court du carbone, je l'ai déjà donnée à plusieurs politiques, vraiment beaucoup. Je l'ai envoyée, etc. Je n'ai jamais de réaction.
Alors, si, des réactions, vous en avez, notamment celle de Philippe Dague. Et puis, il faut saluer quand même aussi l'ouverture d'esprit de chacun de vous deux. Philippe Dague, merci d'ailleurs d'avoir joué le jeu. Vous-même, je disais, vous êtes géologue. À la retraite, quel est votre propre parcours, Philippe Dague ?
Ben, je suis géologue, je ne suis pas juriste, et contrairement à Yves, on ne travaille pas du tout à la même échelle de temps. Le géologue, il compte en millions d'années, et toute la réflexion en ce moment autour du changement climatique, ben, on est à 5 ans, on est à 10 ans, on est à 20 ans, mais on ne raisonne pas en millions d'années. Alors si on regarde l'histoire du climat, ne serait-ce que dans les périodes récentes, on s'aperçoit qu'il y a eu des changements aussi importants que ceux qui ont lieu à l'heure actuelle, mais qu'à l'époque, personne n'a su les prévoir ou n'a su à quoi ils étaient dus. Je pense à l'optimum climatique du Moyen-Âge, de grosso modo de 800 à 1200. Je pense au petit âge glaciaire qui a commencé vers 1200, qui est peut-être, mais encore une fois, ce sont des corrélations, ça s'est fait en même temps, peut-être dû à des volcans, mais personne n'est capable de dire si c'est vraiment dû à des volcans. Et puis, je pense au réchauffement qui a eu lieu à partir de 1850. Bah, vous dites, on dit que c'est le début de la période industrielle, mais à l'époque, on ne rejetait pas beaucoup de gaz carbonique dans l'air, et en attendant, ça a changé. Voilà, donc je suis tout à fait sceptique.
L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Exceptionnellement, c'est moi qui vais faire le coup de cœur, coup de gueule, et ce sera un coup de cœur cette fois-ci, parce que nous avons passé un bon moment avec Yves Lubranieki et Philippe Dagg, vous l'avez entendu, deux bons amis. Qui se respectent, mais qui sont fondamentalement pas d'accord sur les questions de développement durable. Et je me suis dit qu'il y avait là la différence, le point de rupture entre les deux, c'est que l'un est un optimiste invétéré, avec une espèce de foi que l'on peut saluer dans la capacité de l'homme à solutionner les problèmes qu'il génère lui-même. Et puis, ça c'est vous, Philippe Dagg, et puis Yves Lubranieki, qui est peut-être plus sceptique, qui s'interroge davantage, et qui surtout se dit que c'est à l'homme de se prendre en main. Peut-être aussi Philippe Dagg, je l'ai noté tout à l'heure, vous dites que de toute façon, on n'est pas maître.
Oui, c'est bien mon sentiment, parce que je pense qu'il faut prendre l'échelle du temps, il faut prendre l'échelle de la planète, et nul ne sait ce que sera l'avenir. Alors, on peut faire des hypothèses, on peut faire des schémas, on peut faire de la prospective, mais nul ne sait si dans 5 ans, dans 10 ans, il se passera quelque chose qui fait que le climat de la Terre ou le réchauffement s'inversera. Je suis fondamentalement optimiste parce qu'on a su, dans le passé, résoudre des problèmes de ce type-là. Nos parents nous ont laissé, par exemple, le Rhin dans un état de pollution déplorable. On peut dire que ma génération a contribué à dépolluer le Rhin et on commence à revoir des saumons dans le Rhin. Alors, que fera-t-on sur l'atmosphère ? J'en sais rien, mais je fais confiance à nos enfants pour qu'ils arrivent à résoudre le problème.
En même temps, Philippe Dagg, est-ce que on arrivera à résoudre vraiment tous les problèmes ? Et est-ce qu'on les a vraiment résolus ? Quand on sait aujourd'hui, on parle beaucoup d'effondrement de la biodiversité, si l'homme avait véritablement agi pour... contrecarrer ces effets-là, on n'en serait peut-être pas là.
Ben non, mais il va y avoir 10 milliards d'habitants sur la Terre, il faut les nourrir. On sait techniquement comment on va les nourrir. Ça se fera certainement au détriment de quelque chose. Donc, des avantages, c'est qu'on saura gérer la nature pour qu'elle produise de quoi faire manger les gens. On saura gérer la nature de manière à ce que l'espérance de vie augmente. Qu'est-ce qu'on veut de plus ?
Est-ce que c'est pas une approche strictement utilitariste? Je veux dire par là que si on vous écoute, Philippe Dagg, c'est pas une prise de position, c'est juste une remarque. Finalement, l'humanité qui mange à sa faim et vit longtemps, vous venez de dire d'ailleurs, ça suffit. Donc il y a l'approche, j'allais dire presque poétique, le plaisir de se prendre dans la nature, etc.
Ça suffit sur le plan politique, mais chaque individu sera libre de faire ce qu'il a envie de faire dans le respect des contraintes liées au climat, à l'environnement, etc. etc.
On peut s'attendre bien sûr à une conclusion, Yves Lubranieki, très différente. Lorsque je dis que Philippe Dagg, votre ami Philippe Dagg, est néanmoins contradicteur, est un optimiste.
Bah, c'était mon ami.
Alors, ça l'est toujours. Et que vous êtes peut-être plus, vous sentez plus acteur finalement de ce changement.
Oui, c'est peut-être ça la différence, effectivement. C'est que la position que Philippe défend, moi je veux bien, mais qui fait quoi ? Parce que si tout le monde adopte la même position, eh ben, nos enfants n'ont plus d'avenir. Voilà. Déjà, c'est pas toi qui as le micro, alors tu parleras quand tu auras le micro. Donc, nos enfants n'ont plus d'avenir. Alors, moi, j'ai parlé des quatre menaces, là. Hein, on en a parlé, hein, l'effet de serre, le nucléaire, le plastique, les pesticides, parce que je les ai reliés, parce que je veux parler du cycle ultra-court du carbone. Mais il y a d'autres menaces. pour lesquelles moi, je n'ai pas de réponse, c'est la gestion calamiteuse de la ressource en eau douce, la démographie exponentielle, la guerre des cultures intimement liée au commerce des armes, l'effondrement de l'éducation de nos jeunes. Là, on le voit en ce moment avec la casse là, qui est liée aux gilets jaunes, là, à côté des gilets jaunes, qui n'a rien à voir avec, mais qui a quand même des effets. C'est des jeunes qui n'ont pas d'éducation. L'explosion attendue des migrations économiques, politiques et climatiques. L'Office international des migrations qui dépend des Nations Unies.
On ne va pas faire la liste, sinon on va...
Non, mais j'ai fini, c'est le dernier point. On sera à 400 millions de migrants à l'horizon 2050.
Ce qui m'intéresse aussi, Yves Lubranicki, c'est comment vous faites pour garder cette relation amicale avec Philippe Dague, alors qu'on a entendu que vous êtes... c'est pas très radiophonique.
Si
parce
on
que
est
ça
amique avec les gens avec qui on pense à la même chose, non,
là, vous
c'est
êtes
possible.
Là, vous êtes quand même très, très
bien. Ça fait, je sais pas, 30 ans qu'on se connaît, qu'on s'engueule en plus. Ça fait 30 ans qu'on s'engueule. J'ai déjà eu envie de le tuer plusieurs fois. Pour le moment, je ne l'ai pas encore fait. C'est peut-être ce soir. Mais non, mais ça, c'est normal, je pense.
Oui et non. Alors, bien sûr, évidemment, c'est normal. Mais pour autant, lorsque... Alors, on peut imaginer que vous soyez tous les deux, je ne sais pas, ministre. Il y a bien des choix à faire dans une société.
On ne sera pas dans le même gouvernement, à mon avis.
Comment est-ce qu'on fait pour prendre des options politiques qui engagent le pays, qui engagent la planète, quand on a des avis comme ça extrêmement différents?
Mais Monsieur Mutchler, excusez-moi, j'ai la réponse. C'est le cycle ultra-court du carbone. Si on fait...
C'était pas tout à fait le sens de ma question. C'est comment vous faites, comment vous faites avec des contradicteurs qui ne sont... Enfin, on le voit aujourd'hui.
Ah oui.
On évoquait tout à l'heure Donald Trump qui vient de supprimer les quotas d'émissions de CO2 en pleine COP24, alors que le GIEC vient d'annoncer justement que les émissions augmentent de façon exponentielle. Finalement, la discussion que nous avons là autour de la table, c'est une conférence internationale.
Oui, d'accord. Alors, moi, je pense qu'on ne peut progresser que par la discussion. De la discussion jaillit la lumière, disait ma grand-mère. Et d'un autre côté, vous savez, il y a une phrase dure qui dit « on ne peut faire la paix qu'avec son ennemi ». Bon, évidemment, Philippe, ce n'est pas mon ennemi. Mais on n'est pas d'accord sur certains points. Eh bien, il n'y a qu'en discutant et en s'engueulant qu'on arrivera peut-être finalement à trouver un point commun.
Depuis le temps que vous discutez, est-ce que ça a progressé entre vous?
Pas vraiment, non.
Yves Lubranicki et Philippe Dague, merci.
Merci à vous.
Et merci de votre attention.
Voilà pour ce débat entre les ci-devant Yves Lubranicki et Philippe Dague, réalisé au domicile du premier à Nancy, que nous remercions pour son accueil et l'excellent gâteau. Pour en savoir plus, obtenir le manifeste d'Yves Lubranicki sur les quatre pires menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'humanité, écrivez à contact@durablementvotre.fr qui transmettra. Vous avez pu écouter Dans l'ordre. Demain, c'est quand, par le groupe nancéen Tournée Générale, paru sur l'album éponyme sorti en 2012. Les Centrales, par Philippe Laboudigue, alias Castelmis, paru sur l'album N'importe quelle sorte d'amour, sorti en 1982. Et enfin, 60 millions d'œufs, par le groupe Les Petites Nacelles, paru sur l'album 2-3 trucs, sorti en 2008. Merci à Véronique Olivier, à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvotre.fr.